Un jour d'août 1973, Jan-Erik Olsson fait irruption dans une banque suédoise et prend trois jeunes femmes en otage. S'ensuit un siège de 6 jours dont l'étonnant dénouement a permis au psychiatre Nils Bergerot d'identifier et de décrire un phénomène psychique particulier, le syndrome de Stockholm. C'est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. On voulait parler de peut-être pas tant ce qui s'est passé le 23 août 1973 à la Kreditbanken de Stockholm, mais de ce qui en a découlé.
Ouais.
C'est difficile de parler de ce qui en a découlé sans parler de ce qui s'est passé ce jour-là, en 1973, à l'époque... dans les années 70, en fait, à l'époque des Volkswagen, des Mustang, des Camaro.
Des vols de banque.
Des vols de banque, des détournements d'avions, de la révolution universelle, de l'anticolonialisme assumé de Cuba. T'sais?
Mais parce que ça, on va donc parler d'un vol de banque, mais dans l'imaginaire... des années 70-80, ça avait une place, le vol de banque, qui n'existe plus maintenant, tu sais, les braqueurs de banque.
Non.
Il
n'y
a plus de chance que...
Non, c'est ça. Hein? C'est moins Far West, c'est moins romantique, romanesque qu'en 1973. Le jour où Jan Olsson a débarqué, Jan-Erik Olsson a débarqué à la Kreditbanken, de Stockholm et a commencé, habillé en femme, à tirer des coups de feu et à dire, avec un fort accent américain, « The party begins ».
Ouais. Mais moi, j'ai pas vu qu'il était habillé en femme.
Moi non plus, j'ai pas vu, mais je l'ai entendu.
Non, mais je veux dire, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas lu ça.
Qu'il y avait une perruque... puis du maquillage, du blush sur les joues.
Non, c'est bête. Je sais pas pourquoi j'ai refoulé ce bout-là ou que toi, tu l'as accentué, un des deux. J'avais comme dans le souvenir d'avoir lu qu'il était arrivé avec une perruque, mais j'ai pas...
C'est tout?
Ouais.
T'as pensé court frisé au lieu de court raide, genre?
Écoute.
Il y avait du rouge sur les joues. En fait, il s'est rendu méconnaissable. Il avait beaucoup réfléchi pendant les années qu'il a passé en prison et qu'il a fréquenté d'autres braqueurs de banque à comment il pourrait faire un braquage de banque réussi. Puis une des choses, c'est de l'interprétation, mais tu sais, à partir des faits que j'ai grappillés ici et là, ce qu'il semble avoir conclu, c'est que si il est physiquement méconnaissable, il y a des meilleures chances de s'en sortir. Ouais. Fait qu'il est arrivé habillé d'une façon déguisée.
Parlant anglais.
En parlant anglais avec un très fort accent américain.
Ouais.
Fait qu'il a essayé de se faire passer pour un Américain ou une Américaine. Il est rentré dans la banque. Il a tiré des coups de feu. La panique s'en est suivie.
Ouais.
Il y a des gens qui se sont enfuis à la course, qui ont pensé vite, et il y a quelques jeunes femmes et un jeune homme qui sont restés, une sténographe, entre autres, des jeunes employés ES de la banque qui sont restés là, et un gars qui est allé se cacher dans une armoire.
Qui vont découvrir plus tard dans le... Parce que le braquage en tout et partout va durer 6 jours.
6 jours.
Ce qui n'était pas le but. Hein. Au début, son plan, c'était de prendre des otages, de demander une rançon, une voiture qu'il pourrait prendre pour s'en aller, puis de clore le tout en une journée. Là.
Oui.
C'était pas son idée d'étirer ça.
Oui, c'est ça. Il n'avait pas réfléchi à tous les tenants et aboutissants.
Mais bon, c'est un vol de banque qui a capté complètement l'attention de la Suède à ce moment-là, parce que pendant 6 jours, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait des caméras tout autour de la banque, puis oui. il y avait des updates live de oui. ce qui se passait, des négociations entre les policiers, les otages,
oui.
les braqueurs, etc. Ben, c'était son plan, par contre, donc, d'avoir des otages. Alors, il rapidement, comme il l'avait élaboré, il cible 3-4 personnes, mais en fait, trois femmes qui vont devenir ses otages, et... Il demande après ça... Ben, puis ça se passe très vite, hein, parce qu'il y a quelqu'un dans la banque qui déclenche l'alarme, en fait. Donc, plus vite qu'il pensait, les policiers encerclent la banque et il y a comme un jeu de négociation qui commence là, en dedans de quelques heures. Là.
Ça fait qu'une de ses revendications, c'est qu'on lui amène Carl Olofsson, qui est un camarade de cellule avec qui il a passé du temps et qui lui a semble-t-il, en fait, c'est ce qu'on sait des entrevues que Carl Olofsson a accordées par la suite,
ouais.
lui a tout appris d'un braquage de banque réussi. Parce que, comme en bandit, on s'explique les choses, puis les tactiques et tout. Donc, il demande, une de ses demandes, c'est d'abord, il veut de l'argent, il veut une voiture pour pouvoir s'enfuir, et il veut que Carl Olofsson viennent leur joindre ouais. à la banque.
Exact. Ce qui se passe. Donc, oui. pas longtemps après, il lui livre le prisonnier qu'il avait demandé. Et donc là, lui, il débarque, Clark, pour mettre un peu... Puis de ce qu'on comprend, c'est qu'il vient calmer un peu le jeu. Parce que l'autre est un peu stressé par tout ça quand même. Puis c'est... Clark est le criminel le plus endurci, qui a plus d'expérience et qui oui. vient un peu mettre les affaires en place. Là.
Oui, oui, puis avec une personnalité... que c'est un criminel qui a beaucoup d'entre-gens.
Oui, c'est ça. Puis c'est drôle, cette histoire. C'est un aparté, non, mais... Parce que, comme de raison, on s'en intéresse... on s'intéressait à cette histoire-là 45 ans plus tard, là, et plus. Mais... Je ne sais pas si c'est le propre de la Suède, mais les deux criminels ont eu un certain statut quand même où tu as l'impression qu'ils font un peu partie de l'imaginaire de la Suède. Fait qu'ils sont interviewés à plusieurs reprises par la suite et traités avec un certain respect. Tu sais, c'est pas
oui.
des criminels, puis après ça, on n'en parle oui. plus, ils sont en prison. Là. On les voit qui badinent, puis qui expliquent. Il y a plusieurs oui. d'entrevues d'eux.
Oui, là. Mais il y a aussi quelque chose d'époque, là. C'est-à-dire d'être un braqueur de banque, ça avait quelque chose aussi de très romantique,
ouais.
de très...
Ben, puis là, il y a... Donc ça se passe le 23 août 1973. Un peu plus d'un an plus tard, en novembre 1974, t'as un article du New Yorker du magazine New Yorker, qui, je pense, a vraiment fait école là, par rapport à ce cas. C'est comme l'article référence où, un an et quelques mois plus tard, un long article de New Yorker style, très, très long, qui décrit heure par heure comment se sont déroulées les négociations, comment se sont déroulées la vie pour donc les trois otages initiaux?
Initiales, c'est trois femmes, trois jeunes femmes.
Et... Sven, qui a un moment donné, qui découvre là, dans un garde-robe qui se cachait. Là,
qui est le quatrième.
Fait qu'il décrit tout ça. Comment t'as trouvé l'article du New Yorker, toi? Moi, je suis mitigé par rapport à l'article. Là.
Vas-y donc.
Ben, mais je suis mitigé par rapport au New Yorker, souvent. Là. D'un côté, c'est bien écrit.
Oui, c'est ça, là, c'est ça.
C'est très bien écrit.
C'est long ça, et c'est
ça a
très,
un côté
très littéraire.
C'est très littéraire.
Oui.
Mais aussi, par contre... c'est long, mais il se donne le temps de bien décrire ce qui s'est passé. Mm-hmm. Fait que, ça donne vraiment... Puis ça a été, comme je dis, c'est vraiment un article qui a fait école parce que par la suite, beaucoup, beaucoup de podcasts que j'ai écoutés qui décrivaient ce qui s'est passé reprenaient en fait mot pour mot l'article du New Yorker.
Ah, oui,
c'est quand même pas rien parce que ce qu'on découvre de d'autres textes, c'est que l'article du New Yorker, c'est un article, mais c'est pas nécessairement l'évangile de ce qui s'est passé cette
mm-hmm.
journée-là. Mais
mm-hmm.
ça a vraiment... passer à l'histoire, cet article-là. Mais donc, c'est ça, mitigé, parce que c'est très littéraire, c'est long. Fait que d'un côté, ça décrit bien tout ce qui s'est passé. De l'autre, ça tend, comme le New Yorker le fait souvent, à aplatir un peu le contenu à force d'être lyrique.
Oui.
Puis, tu sais, tu te dis, mais là, dans le fond, Il y a une histoire incroyable qui fait vraiment un moment dans une vie qui a changé la vie de tous les gens impliqués, qui fait éruption de nulle part, un beau matin du 23 août 1973. Ces trois femmes-là se retrouvent...
en otage pour les 6 prochains jours.
Oui. Puis parce que tout est décrit d'une façon linéaire, à un moment donné, ça devient comme presque une histoire comme une autre.
Oui.
Tu sais, où t'as pas de punch, t'as pas de... Où, c'est pas que t'as pas de punch, mais quand l'auteur stumbles sur quelque chose que, ah, ça c'est particulier dans ces 6 jours-là, puis là, t'aimerais ça qu'il s'arrête, puis qu'il creuse, puis c'est comment les gens réagissent. On continue comme si de rien n'était, puis tout a le même poids. Fait que c'est ça qui fait un drôle de feeling, je trouve, quand t'écoutes, quand tu lis ça, puis quand t'écoutes d'autres podcasts, c'est que... Pourquoi faire une narration si linéaire d'un événement comme ça? Tu sais, c'est quoi le but? Puis dans les podcasts, c'est ça, ils rajoutent un peu de musique. Mais tu sais, c'est comme si tu perds le choquant de l'affaire ou le surprenant de l'affaire. Ou tu sais, c'est l'idée de dire, mais là, attendez une minute, là. Le monde, c'est des jeunes femmes, 31, 23, 21 ans. Sven, l'homme, il a 25 ans. Jan-Éric, il a 32 ans. C'est du monde jeune. Ça arrive dans leur vie. Comment ce monde-là réagisse à cet événement-là, selon leur passé, leur personnalité, ce qui se passe. Puis t'as l'impression qu'il y a personne qui s'arrête pour dire quand même, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qui est arrivé. C'est juste comme un truc linéaire un après l'autre jusqu'à temps qu'ils réussissent à les libérer. T'sais, je trouve que ça manquait de...
C'est-à-dire que les personnages, ils ressortent pas. C'est ça le truc, c'est que les personnages, les personnes impliquées ressortent pas en tant que personnages, ont pas de profondeur comme personne. C'est comme t'as le récit romancé des événements, que je pense que c'est important de resituer dans une époque où t'as aussi des détournements d'avion, où t'as des gens qui revendiquent des choses qui sont anti-système à répétition, puis que c'est dans l'air du temps, puis que c'est cautionné par les discours dominants, en particulier la presse.
Ouais.
Ça fait que tu vas raconter un braquage de banque, puis pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que, tu sais, t'en as d'autres dans les mêmes temps, t'en as beaucoup des braquages de banque, là, c'est cool de braquer des banques.
Oui, puis c'est faisable. Puis t'as une chance de t'en tirer. Hein.
C'est ça. Puis t'es encore un peu en avance par rapport au système de sécurité policier, etc. Pourquoi ce braquage de banque-là en particulier? Puis quand tu le racontes comme Conan Doyle raconte des enquêtes de Sherlock Holmes, disons. C'est comme désincarné, en fait.
Il y a un peu... Ouais, il y a quelque chose de désincarné.
C'est tellement littéraire que ça finit par être désincarné. Les personnes qui ont vécu la chose, ben en fait, tu sais, ça te fait réagir aussi maintenant parce que ce qu'on lit, c'est d'un style complètement différent.
Ouais.
Même dans le New Yorker, en fait.
Ouais.
C'est toujours un peu littéraire, mais puis il y a toujours beaucoup de mots.
Mais puis en fait, c'est le New Yorker, c'est parce que quand je l'ai lu, l'article du New Yorker, je trouvais ça un peu, mais c'était un an plus tard. Ben, tu sais, à un moment donné... C'est un bon article. C'est surtout quand j'ai écouté un podcast par la suite, qui est très récent, qui mettait en scène l'article du New Yorker, si on veut, avec deux personnes qui décrivent ce qui s'est passé avec la musique, de l'ambiance.
Oui.
Tu te dis, OK, mais... C'est très slick, c'est très beau, ça s'écoute bien, justement. C'est ça l'affaire, ça s'écoute bien, ça s'écoute comme n'importe quoi.
Mm-hmm.
Mais là, tu te dis, mais pourquoi raconter un vol de banque de cette façon-là, tu sais, c'est quoi le but?
Mm-hmm.
Puis c'est un podcast qui parle juste de kidnapping. Mm-hmm. Là, tu te dis, mais pourquoi vous faites la narration de plein de kidnapping d'une façon comme ça, très smooth, toujours sur le même ton, avec des trucs de narration, de tu baisses la voix quand c'est un peu plus dramatique. Mais,
oui.
Mais c'est pas vrai.
En fait, c'est un objet.
Oui.
C'est un objet, c'est juste un objet pour une autre fin. C'est-à-dire, c'est un moyen pour arriver à une autre fin. Raconter cette histoire-là, c'est un intermédiaire pour un autre objectif que tu as. C'est-à-dire, tu tombes sur un fait divers X, puis ton ambition à toi, c'est d'écrire des beaux textes ou de produire des beaux podcasts
c'est ça.
Qui sonnent bien.
Ouais.
Fait que le fait divers, c'est juste un moyen pour arriver à ta fin.
C'est ça. C'est ça. Fait que c'est une drôle de frustration que j'ai quand même, parce que bon, tu sais, c'est ce que c'est, puis c'était bien fait, là. Mais la frustration vient aussi que là, on s'intéresse à ce cas-là, on cherche du matériel pour en savoir plus. Puis là, des fois, tu te dis, ah, OK, là, il s'est passé de quoi, là? Dans la troisième journée, il y a eu un rapprochement sexuel entre une des otages, puis Clark Olson, hein? Je pense que c'est avec Clark.
Oui.
Ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Là, ça fait 35 ans, on parle de plein d'autres choses autour, on peut parler de ça aussi.
Mm-hmm.
Mais là, tu sais, il ne faut pas en parler, ou ça passe rapidement, ou... où on nous dit que c'est vraiment pas bien.
Mm-hmm.
Mais quoi? Il s'est passé quoi?
Mm-hmm.
Et...
Mais en fait, ce qui est drôle, c'est parce que là, on a plusieurs intermédiaires. Ce qui est drôle, c'est que on a plusieurs intermédiaires dans le sens où ça commence... C'est en Suède. C'est à Stockholm.
Ouais.
Donc, c'est en suédois.
Oui, mais c'est ça. Excuse-moi. Parce que c'est ça mon idée. C'est que c'est ça la frustration. C'est que d'un côté, t'as du monde qui font des créations artistiques très slick sur le cas, puis de l'autre, tu as des témoignages des gens impliqués en suédois.
Oui, c'est ça.
C'est ça, je veux
c'est
savoir.
C'est ça.
Donc là, il interview une des filles, puis là, elle s'explique, puis elle raconte, puis tout ça.
La plus vocale, là, ouais, ça, c'est Christine Enmark.
C'est ça.
Elle a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Elle a écrit un livre.
Elle a écrit un livre, c'est ça.
Dernièrement.
Oui, en suédois.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est énervant pour les non-suédois.
Oui.
Parce que les non-suédois n'ont pas accès aux subtilités de ce qui se discute, en fait, dans ce dialogue-là. Parce que la raison pour laquelle, en fait, si je peux juste, faire une parenthèse par rapport à ton élaboration, puis ajouter, c'est comme ce qui est intéressant de ce cas-là, c'est que c'est le braquage de banque, un des braquages de banque parmi plein qu'il y a eu dans les années 70, 80, tu sais.
Ouais.
Il y a des braqueurs de banque célèbres qui sont, tu sais, mythiques, tu sais.
Pierre Falardeau a été captivé pendant plusieurs années sur un vol de banque qui avait été planifié au Québec. Hein?
C'est-tu le Messrine? C'est-tu Jacques Messrine? Jacques Messrine qui était un voleur de banque français qui a volé des banques en Belgique. Qui a volé des banques en Suisse, qui est venu voler des banques au Québec.
Je sais pas. Faudrait qu'on en reparle. Parce qu'il a fait un scénario, en fait, sur ces gars-là qui, à un moment donné, ont passé beaucoup de temps à élaborer le vol de banque parfait, en creusant un tunnel pendant des mois et des mois.
Oui, il y a tout un...
Tout un... C'est un art.
C'est une sous-culture.
Oui, c'est une sous-culture, voilà. Sous culture perdue, excuse-moi.
Fait que pourquoi celui-là ressort en premier ou nous a intéressés ou plus que d'autres? C'est pas à cause de ce qui s'est passé, à cause du nombre d'otages ou parce que c'est en Suède ou à cause des caractéristiques des braqueurs. C'est parce que de là, nous est parvenu... le syndrome de Stockholm, parce que la Credit Banken, c'est la banque qui a été braquée à Stockholm par Jan-Erik Olsson et Carl Olofsson, qui en fait est un accessoire parce que lui est arrivé après les faits comme intervenant de crise, en fait, c'est ce qu'on apprend.
Oui.
Il est venu désamorcer la patente. En fait, selon son propre récit à lui, comment lui le raconte.
Ouais.
Et après, en fait, c'est qu'après avoir été pris en otage pendant 6 jours, les 4 otages de ces 2 braqueurs-là sont sortis en refusant de faire confiance à la police, en refusant de laisser leurs agresseurs, disons, entre guillemets, passer avant eux par peur que la police les assassine.
Ouais.
Super, full soutien pour les braqueurs.
Ouais.
Et semble-t-il que Christine Enmark,
ouais,
Malgré ce que Wikipédia en dit, tu sais, Wikipédia dit que c'est une légende urbaine, mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça, a entretenu une relation par la suite avec Karl Olofsson,
ouais,
qui est un grand gaillard, hyper rassurant, malgré son pedigree de braqueur de banque.
Mais pas juste ça, c'est pas juste en sortant, hein, parce que pendant les négociations, il y a ce dialogue-là irréel quand même entre elle, Christine Henmark, et le président de la place, qui a réussi à lui parler.
Oui, c'est juste avant les élections, en oui, plus. Oui,
c'est ça.
C'est qu'il y avait un enjeu, là, qu'on voulait que le président...
Oui.
En fait, je sais pas si c'est une république, hein, enfin, en Suède, le président, le premier ministre, intervienne personnellement. Et il y avait un enjeu là qui était important parce que les élections devaient se tenir quelques jours plus tard et que là, la stratégie en pâtissait. En
c'est fait. Ça.
Et la police a vraiment foiré tout du début à la fin, là. Mais pardon.
Mais donc, dans ce dialogue-là, à un moment donné, elle demande à... J'oublie si c'est le premier ministre ou le président. Je pense que c'est le premier ministre.
Je mettrai en lien. La structure.
Le nœud de l'affaire est le même. Puis elle lui dit, puis le dialogue est quand même fascinant parce qu'elle lui dit, écoutez, je fais pas confiance aux policiers, je fais confiance aux ravisseurs.
Oui.
Ils sont tout à fait corrects avec nous.
Oui.
Laissez-nous partir.
Oui.
J'aime mieux partir avec eux, comme ils le demandent. Acceptez leur demande, on va partir avec eux, tout va bien aller.
Mm-hmm.
Puis l'autre interlocuteur répond, mais écoutez, les policiers sont là pour vous aider, soyez raisonnables. Puis il y a comme un échange comme ça pendant plusieurs minutes.
Mm-hmm.
Jusqu'à temps que très cyniquement et laconiquement, elle raccroche en disant, well, thanks a lot for your help. Thanks for nothing. Puis là, sa mère l'appelle. Ça aussi, ça a des relents des années 70, parce qu'ils ont un téléphone. Donc sa mère, à Christine, l'appelle.
Oui, c'est ça, ils ont un téléphone.
Mais vrai?
Parce qu'ils sont dans la voûte.
Oui, c'est
ils
ça.
Puis ils sont attachés par leur cou aussi. La police encercle la banque sans intervenir vraiment. Les négociations, c'est Jan Olsson qui a commencé tout ça. Puis ouais. Ses demandes, on y a répondu. Mais là, il hésite encore. Il veut pas se faire pogner. Il veut pas retourner en prison. Fait que... Ça dure longtemps, la police n'intervient pas, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et une des otages a des sortes d'attaques de panique, de claustrophobie,
ouais.
Parce qu'ils sont dans la voûte. Et là...
Clark Olofsson
l'amène prendre des marches pour désamorcer sa claustrophobie.
C'est ça. Il prend soin de ses otages, il faut le dire. Hein.
Il jase avec.
Oui, oui, il a calme.
Il est sympathique au bout.
Oui, oui, oui. Et puis parallèlement à ça, il y a quand même une erreur policière qui ne leur a pas inspiré confiance. C'est que pendant un bout de temps, les policiers ne savaient pas qui étaient les ravisseurs, qui étaient les kidnappeurs, puis ils ont pensé à tort que c'était quelqu'un d'autre, dont j'oublie le nom. Mais donc, ils pensaient que c'était M. X. Alors, ils ont trouvé le petit frère de M. X. Puis, ils se sont dit, ben on va le lancer dans la voûte, puis il va aller amadouer son grand frère. Fait que là, le petit, c'est un jeune de 16 ans, il arrive dans la voûte. Mon frère, que fais-tu là? Qu'est-ce ce gars-là? Il tire dessus. Là, le jeune sort de là.
En panique.
Ça, c'est un moment cocasse pour le jeune de 16 ans, mais ça n'inspire pas confiance aux otages. La personne qui pensait qu'il était le kidnappeur, lui entend parler qu'on pense, que les policiers pensent que c'est lui, c'est pas lui, fait qu'il est offensé qu'on l'associe à un crime tout croche comme ça. Lui, il est beaucoup plus intelligent. Fait qu'il appelle les policiers, puis il vous dit « Un instant, c'est très insultant, je suis un kidnappeur professionnel, je suis pas un amateur. Oui. » Mais lui, il le recherchait, il est en cavale. Fait que parce qu'il les appelle, puis qu'il leur dit « Hey, vous êtes méprisé, je suis bien meilleur », ils finissent par le retrouver.
Bon, ben c'est ça.
Comme quoi, l'ego et la vanité.
Tout à fait. Mais c'est un des appels, parce qu'ils ont reçu un paquet d'appels, surtout comme ils disent... des dames âgées.
Oui, 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 qui avaient des trucs.
Il y avait tous des trucs, tu sais. C'est quoi, leur faire chanter des chansons faire chanter des chansons, tu sais, de l'armée du salut, là, des chansons chrétiennes,
religieuses. Pour les amadouer à petit feu.
Il n'aime pas les sources. On reçoit des appels d'un paquet de citoyens concernés.
Oui, oui. Parce que pendant plusieurs jours, en fait, toute la ville était en attente de voir comment ça allait finir, cette histoire-là.
Oui.
Puis il y a un aspect irréel un peu aussi, tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, à un moment donné, il y a une des otages qui veut parler à son mari, à sa mère, puis elle appelle, puis il n'y a pas de réponse. Fait qu'elle est déçue, je veux dire, t'appelles, il n'y a pas de réponse.
Oui.
Puis le kidnappeur, Clark, il a dit « Non, inquiète-toi pas, tu vois, t'y rappelleras tantôt, ça va bien aller. » Fait que lui, il est là pour les calmer. Mais bon, il y a tout un aspect, ça. Donc, vraisemblablement, puis il n'y a pas de raison d'en douter, là, les deux, surtout Clark Olofsson, je pense, a... T'sais, une façon de bien les traiter,
oui.
De prendre soin. Maintenant, il y en a une qui a froid, il donne son manteau. Maintenant, oui. Il manque de bouffe, il
oui,
donne
oui,
de la bouffe.
Oui, c'est un gentleman.
Ouais. Dans d'autres récits, par contre, il y a des fois où il y a des bursts de violence quand ça devient plus corsé avec les négociations avec les policiers. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, parce que il y a des récits qui sont... C'est pas dans tous les récits qui ont dit la même chose. Fait que, tu sais, il y a un des récits que j'ai lu que, à un moment donné, ça devient plus corsé avec la police. Puis là, il y en a un des deux kidnappeurs qui choque. Puis qui aurait étranglé, pris par le cou, je pense que c'est Brigitta ou Christine. Puis là, il raconte dans le récit que, pour faire un statement à la police, que là, ça va faire. Hein.
Mm-hmm.
Puis qu'elle, pendant plusieurs heures après, elle a de la misère à respirer. Tellement elle a le cou comme boursouflé parce qu'elle a été serrée. Tellement mm-hmm. elle a été serrée. Mm-hmm. Mais ça, c'est la seule endroit où je l'ai lu. Dans les autres récits, il n'y a pas ça.
Mm-hmm.
Puis là, c'est vrai que ça jure un peu parce que tu sais, c'est vraiment arrivé pour vrai, cette bouche de violence-là où pendant des heures, elle a de la misère à respirer. Puis, tu sais, pour que tu aies de la misère à avaler puis à respirer parce que tu t'es fait quasi étrangler.
Oui.
Là, c'est dur de penser qu'après ça, il est fin avec toi puis
oui.
C'est correct. T'sais.
Oui.
Fait que.
Mais c'est qu'en fait, c'est ça qui est... Parce que tu l'entends par ailleurs parler de Christine Henmark avec beaucoup, beaucoup d'affection, puis elle de lui. Elle qui lui a dit, quand toute cette prise d'otage-là s'est terminée, on va se revoir,
ouais.
Tu sais, puis qu'après ça, she was a very sweet girl, puis moi, j'ai fait attention, tu sais, j'étais pas là pour faire mal à personne, etc., puis qui ont eu une relation, semble-t-il, pendant un certain temps, tu sais.
Après, tu veux dire?
Après.
Ouais.
Après, quand tout ça a été terminé.
Ouais. Elle l'a visité en prison, ça, c'est sûr.
Oui, ouais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un... En fait, c'est toute la question, tout l'intérêt de ce braquage de banque-là, puis de comment ça a évolué, puis de savoir est-ce que, effectivement, une des otages a été violentée à ce point-là, tu sais.
Ouais.
Ou est-ce que c'est un récit qui a été, comme, ajouté sur un récit en suédois? Parce que, tu sais, tout l'intérêt, c'est autour de l'invention du fameux syndrome de Stockholm.
Tout à fait.
Parce qu'il y a un négociateur qui est là, en présence, qui est psychiatre Nils Bejerot.
Oui.
C'est le négociateur, c'est celui qui conseille la police, et la police n'est pas intervenue pendant 6 longues journées. Puis quand elle a fini par intervenir, c'était avec des gaz lacrymogènes. Puis l'inquiétude, c'était qu'il arrive quelque chose de grave aux otages à cause de l'intervention policière.
Ouais.
C'est ce qui a fait qu'ils se sont abstenus, entre autres. Mais pendant ces 6 jours-là, il y a une relation qui s'est établie entre les preneurs d'otages et les otages.
Ouais.
Et le négociateur, ou en fait le psychiatre, là on est en 1973,
ouais.
Qui n'est pas juste l'époque des où c'est cool de braquer des banques, puis où c'est romantique d'être un terroriste qui fait des détournements d'avions, mais aussi, en 1973, ce me semble, on est à l'époque où c'est cool d'être un psychiatre, puis de fabuler tout un paquet de choses sur des patients, tu comprends?
Ouais.
Puis d'en faire des films. Tu sais, il y a comme une inventivité de diagnostic et de traitement dans les années 70 en psychiatrie, en psychologie,
ouais.
Qui disons, passé date aujourd'hui,
mm-hmm.
qui a reviré comme dans son contraire, mettons.
Mais non, ouais. Mais on rentre dans le nœud de l'affaire en termes de syndrome de Stockholm. C'est que d'un côté, une version, c'est que ce psychiatre-là constate ce qui se passe, voit la relation se déployer entre les trois femmes, et même le Sven, qui est aussi...
Oui, il s'est fait dire, lui, « OK, il faudrait que je te tire dans une jambe. »
Oui. Il faut qu'on montre aux policiers que je suis sérieux.
Mais là, je ne vais pas te tirer dans un os pour te faire moins mal. Puis Sven qui dit « OK, c'est cool. Oui. » Puis qui accepte de se faire tirer dans une jambe pour soutenir la cause de ses ravisseurs.
Oui. Fait que lui, le psychiatre, il voit tout ça se déployer à différents moments. Puis une version, ça serait qu'à un moment donné, il dit « Ah ben, là, c'est le syndrome de Stockholm. » Il l'a pas dit comme ça tout de suite. Mais il y a donc une proximité qui se crée entre les ravisseurs et les kidnappeurs, puis une proximité qui n'est pas logique, qui est reliée à un instinct de survie où à un moment donné, tu te colles sur les gens qui sont plus proches que toi, puis tout ça. T'sais.
C'est ça.
Puis ça fait du sens, on peut comprendre cet aspect-là.
L'identification à l'agresseur.
Exact. Puis surtout, c'est facilité quand tu as un ennemi extérieur commun. Et dans ce cas-là, ça se projette un peu l'idée que les policiers autour, qui sont perchés un peu partout avec des carabines, ça pourrait tirer n'importe où. Puis
ils savent pas ce qu'ils font.
Ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont amené le kit de 16 ans.
Puis... Oui, c'est ça.
Fait qu'ils ont un ennemi commun extérieur, bon, tout ça. Fait que ça, c'est une version. Il y a une autre version qui est ressortie beaucoup, beaucoup plus tard, assez récemment, en fait. Puis je sais pas si elle est vraie, mais qui dirait, mais ce psychiatre-là n'a jamais interviewé
qui que ce soit.
Donc, il n'a jamais interviewé les trois femmes, ni Sven. Je t'appelle juste Sven, mais son nom de famille est difficile à prononcer. Hein.
Oui, c'est en suédois.
Et voilà. Ça fait partie du cas. Et donc, qui n'a jamais interviewé personne. Et l'autre version, c'est qu'il a fait n'importe quoi, que les policiers, c'était n'importe quoi, qu'il y a eu plein de bavures, en fait, puis une façon de sauver la face de ces otages-là qui sortent en disant « on va se revoir ».
Je t'aime.
Préfèrent les kidnappeurs.
Ils vont refuser de partir en premier parce qu'ils ne veulent pas risquer que leur ravisseur se fasse tirer par les policiers, entre autres.
Qui sont très fâchés de ce qu'eux, ils considèrent un abus de pouvoir quand, une fois qu'ils réussissent à capturer les deux kidnappeurs, ils paradent dans les rues pour montrer leur trophée, puis comment c'est des grands policiers. Surtout, ils trouvent ça inutilement humiliant, tout ça. Fait qu'il y a comme une version maintenant qui dit, ben non, c'était en fait juste un truc pour se dédouaner un peu de toutes les erreurs, de dire, ah ben regardez, nous, on a bien fait notre travail.
Oui, c'est ça.
C'est les otages qui sont...
C'est ça.
Qui est de ce syndrome-là.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais fait, est-ce que c'est...
Mais c'est ça, mais aussi, je peux dire juste... C'est parce que... jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puis au temps de notre formation, tu sais, je veux dire, c'était facile pour un psychiatre ou un psychanalyste ou un psy de retourner toutes les situations en les affublant d'un terme psychologique, tu sais.
Oui.
C'est-à-dire, ben non, mais non, c'est pas moi qui t'ai fait ceci, c'est toi qui, ton enfance, quelque chose, tu sais. Mais non, c'est pas moi parce que c'est Christine...
Anne-Marc?
Oui, qui en a vraiment gros sur la patate, hein, par rapport à toute cette situation-là. C'est pour ça qu'elle parle beaucoup aussi, tu sais. Mais entre autres, qui en a contre le psychiatre qui a mal évalué la situation selon elle.
Qui lui a pas parlé.
Et qui a inventé, selon elle, le syndrome de Stockholm pour invalider son propos à elle.
Ouais.
C'est-à-dire, en fait, ce que tu dis... C'est pas toi qui le dis, c'est ta maladie ou ta blessure psychologique qui parle, tu sais. Et en fait, c'est moi qui viens de l'inventer, ce genre de blessure psychologique-là.
Et ça tombe bien, je vais en faire beaucoup de papiers puis une certaine notoriété.
C'est exactement, c'est ça.
Et donc, elle, son propos, c'est de dire, t'as raison, Christine en particulier, toute ma vie depuis cet événement-là, depuis 35, 36, 37 ans, On m'a amené à me faire sentir ashamed, coupable de comment j'avais réagi, comme si c'était vraiment...
Pas normal.
Pas normal, un truc d'un syndrome qu'il fallait comprendre, qu'il fallait excuser, quand en fait, il y avait peut-être des raisons tout à fait...
Objectives.
Oui, puis intéressantes à déployer, puis à expliquer, mais c'était plus facile de dire, ah ben, voici ce que c'est. Fait que moi, je serais curieux de savoir. En fait, moi, c'est un peu ça le smoking gun, là, c'est-tu vrai qu'il n'a jamais interviewé, qu'il leur a jamais parlé? Parce que je ne l'ai pas entendu dire ça. Tu sais, ça ressort maintenant dans des tweets. En plus, le psychiatre machisme ne leur a jamais parlé.
Oui, mais c'est parce que lui, il ne travaillait pas avec eux, il travaillait avec la police.
Ouais, mais quand même.
Ben, je sais pas, en 1973. Tu sais, la Goldwater Rule, là, la fameuse Goldwater Rule, là, je pense que c'est les années 60, ça. Ça a été établi parce qu'il y a un gars qui a décidé d'aller en procès, qui est Goldwater, parce que les psychiatres, ça se gênait pas à l'époque, psychiatre, psychanalyste, pour te trouver un, tu sais, je sais pas, un père impuissant, une haine contre ceci, un truc fondamental d'inconscient qu'eux étaient capables de voir à travers l'écran, puis que lui estimait que ça avait vraiment porté atteinte gravement à sa réputation et à ses possibilités de réélection, ou en tout cas, c'était un politicien.
Ouais.
Et à partir de là, quand on a trouvé que ça dérapait pas mal du côté de la psychiatrie, j'avais un livre avant, là, c'est les prodigieuses victoires de la psychiatrie moderne. Tu sais, c'est comme si c'était tout puissant un temps, là.
Tout à fait.
Tu sais, la psychiatrie et la psychanalyse. Quand on a mis un haut là, on s'est rendu compte que là, ça dérapait, qu'il y a eu un jugement de cour qui... reconnaissait les droits de M. Goldwater, ben là, ça a envoyé comme un long frisson qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui dans toute la profession. Mais ça n'a pas toujours été le cas qu'on gardait une réserve sur nos interprétations, tu sais.
Ouais, ouais.
Je pense qu'en 1973, c'était capable de trouver la femme à 10 000 personnalités, là. Sibylle, pour pas la nommer, puis vendre plein de livres, tu sais, sur ta trouvaille, tu sais, c'est que t'es pas mal aussi le free-for-all dans ce domaine-là. Si tu veux mon humble avis, qu'à ce jour, on pense, en tout cas...
Mais bon, s'il a pas parlé à aucun des quatre, à aucune des trois, c'est vrai que c'est encore plus punché, Christine, qui, 35 ans plus tard, dit, écoutez... Vous comprenez pas ce qu'on a vécu, puis personne nous a jamais demandé qu'est-ce qu'on avait vécu, puis on nous a affublé.
C'est ça. T'sais. Mais c'est aussi que à partir du moment où on dit, ben ah, oh, ça c'est une maladie, la réaction normale, c'est-à-dire le sous-entendu, c'est que la réaction normale serait différente.
Ouais, ouais.
Normalement, quelqu'un de normal réagira autrement.
Ouais.
C'est ça le sous-entendu. Il faut que tu aies une normalité pour pouvoir décréter qu'il y a un syndrome, tu sais.
Oui,
t'as
oui.
Il y a une conception de qu'est-ce que ça devrait être. Puis semblerait que ce monsieur-là pensait pas que ça se pouvait d'être enfermé, séquestré par quelqu'un, puis de le trouver sympathique.
Bien, tu vois, là aussi, il y a comme deux versions, parce qu'il y a une version qui est proche de celle que tu dis. Tu sais, c'est vraiment que le psychiatre dit c'est une réaction qui fait aucun sens, faut lui donner un nom.
Mm-hmm.
Contre tout...
Et ça va faire de moi un inventeur.
Ouais, contre tout bon sens logique, ils comprennent pas que les policiers sont là pour les aider, puis que la loi, puis qu'on va prendre soin d'eux, puis ils se collent à des assassins, à des ravisseurs, puis à des kidnappeurs. Fait que ça, c'est une version. Puis la réponse à ça, c'est bien, il nous a shamé, puis il nous a jamais interviewé. Mais il y a une autre version aussi mitoyenne où, par la suite, il explique plus platement le syndrome de Stockholm en disant, ben c'est, il faut qu'il y ait différentes conditions pour que ça arrive, notamment un ennemi commun, notamment, en fait, trois choses. Un ennemi commun, une proximité, comme un lien. Il y a quelque chose qui casse puis qui fait en sorte que les gens qui sont kidnappés voient de l'humanité dans leur ravisseur et vice-versa. Mm-hmm. Ça prend aussi, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là, je veux dire, rapidement... Les deux kidnappeurs se sont mis à être de différentes façons sympathiques aux traits de caractère et à la personnalité de chacun, puis à leur parler comme des humains. Là.
Oui.
Si on prend ça comme ça, que ça prend ces trois conditions-là, mais là, c'est moins un truc du psychiatre macho qui reproche aux femmes. Tu comprends? Mais je sais pas comment ça a évolué, parce que ça, c'est venu beaucoup plus tard, cette espèce d'explication beaucoup plus nuancée du syndrome de Stockholm, là.
Parce que tu mets, c'est ça, hein? C'est comme un... D'abord, c'est un syndrome qui n'existe pas dans le DSM, là, faut le dire, là. C'est comme quelque chose qui est une...
Ouais.
Parce que le DSM, après le DSM-3, là, en particulier, là, à partir du DSM-3 et par la suite, a voulu épurer son affaire de toute référence psychanalytique il y a comme un changement de garde, là. Pour vrai, il y a une,
ouais.
une révolution conceptuelle dans le domaine psy, là, à partir du DSM-3, parce qu'avant, donc DSM-3, c'est les années 80, je pense. Avant, la psychiatrie, la psychologie était dominée par la psychanalyse. Puis la psychanalyse, ce qu'elle permet, et à ce jour encore, ce qu'elle permet, c'est des élucubrations. C'est toutes sortes de choses qui sont pas toutes infondées, mais qui peuvent être infondées.
Mm-hmm.
Tu sais? C'est-à-dire, ce sur quoi repose beaucoup la psychanalyse, c'est sur la crédibilité du psychanalyste qui énonce ce qu'il dit qu'il sait.
Ouais.
Et il y a eu comme une rébellion à l'intérieur de ces disciplines-là, de gens qui ont commencé à se dire, ou qui se disaient depuis longtemps puis qui en ont eu assez, ou qui ont fini par trouver un nombre critique de gens qui pensaient comme eux, à se dire, mais on ne peut pas laisser à des individus une telle liberté, il faut qu'on puisse trouver une façon d'objectiver les troubles de santé mentale si on veut être pris au sérieux, puis si on veut pas être, avoir l'air d'astrologue, ou, tu sais. Et dans le conflit entre les objectivistes et les psychanalystes est né le DSM, qui ne considère pas que le syndrome de Stockholm fait partie de son champ d'expertise.
Oui, tout à fait.
On peut parler plein de choses concernant le DSM, mais je pense qu'il y a ça. Dans les années 70, on était encore à l'époque où, si tu étais psy, ta parole, tu sais, là, tu viens de découvrir un syndrome, tu sais. Il est passé dans le discours courant comme l'affaire des personnalités multiples de Sibylle.
Mais t'es-tu d'accord que dans le discours courant, quand on parle communément du syndrome de Stockholm, c'est plus dans l'idée des otages, pour le dire vite, là, qui tombent en amour avec leur kidnappeur, que l'idée d'un kidnappeur qui se met à traiter ses otages avec l'humanité?
Absolument. Oui, tout à fait. Absolument.
Ça a quand même été...
Absolument. Fait que le gars, il essayait peut-être d'articuler une compréhension de qu'est-ce qui s'était passé systémiquement dans ce groupe-là. Puis là, ça a évolué. Parce qu'aujourd'hui, c'est en rigolant un petit peu qu'on dit, ben là, reviens-en de ton syndrome de Stockholm.
C'est sûr qu'une des leçons, si on veut, de cette histoire-là, c'est comment c'est fort, ce l'était dans le temps, puis il n'y a pas de raison de penser que ce n'est plus maintenant, de vouloir à tout prix que ça soit clair qu'est-ce qui fait trauma. Puis que si quelque chose, tu sais, si on sent que quelque chose est traumatique, ben il faut que ça soit traumatique. Il faut que ça soit un traumatisme.
Oui, c'est
comme
bon.
Ça, on se dit, regardez, ils sont fait kidnapper, ils sont en situation. Et puis ça peut pas être autrement qu'un traumatisme.
Oui.
Le kidnapping comme tel, puis c'est comme vous m'en dites, c'est comme, mais non, tu peux pas nier ça, c'est traumatique.
Oui.
Tandis qu'on pourrait dire, mais peut-être qu'il y a différents événements dans le déploiement qui ont été difficilement vécus. À différents niveaux, selon chacun.
Oui.
Puis c'est pas nécessairement ce qu'on pense d'avance ou ce qu'on voudrait bien. Parce qu'il y a de ça, comme tu dis, il y a une norme qui est comme tissée. Puis que c'est par rapport à cette norme-là qu'on sait, et ou à la réaction qu'elle devrait avoir, puis qu'il devrait avoir, qu'on peut dire, ah ben ça, c'est vraiment en dehors de la norme.
Oui. C'est une norme qui est habituellement fantasmée, en fait. Décrété, en tout cas, tu as un décret qui dit mais c'est comme ça qu'on doit réagir à telle situation. C'est ça la normalité. Et ce qui dévie de ce que je viens de décréter, je décrète aussi que c'est pas de la normalité et je me réserve le privilège d'inventer des syndromes.
Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment chacun des otages a réagi différemment à cette histoire-là. Mm-hmm. Parfois avec, c'est vrai, des choses qui sont propres à eux, puis qui font pas de sens, qui sont propres à elles.
Mm-hmm.
Tu sais, il y en a une, entre autres, qui arrêtait pas... C'est qu'elle avait... Il y avait un party qui était organisé le samedi suivant, puis elle n'allait pas être capable d'aller au party. Plus l'otage durait dans le temps, plus ça devenait clair qu'elle ne serait pas
qu'elle
capable...
Qu'elle était pour rater.
Qu'elle allait rater son party. Puis ça lui restait comme quelque chose d'une déception.
Oui.
Puis elle se faisait rassurer là-dessus. Il y a un des ravisseurs qui disait, tu vas en avoir d'autres parties, ça va être correct.
Ouais.
Mais tu sais, bon, c'est un événement écran. Mais donc, c'est ça qui est intéressant aussi de voir des fois, c'est comment chaque personne réagit selon ses propres mécanismes de défense, selon ses propres caractéristiques, puis qui n'est pas nécessairement comme on pourrait s'y attendre. Des fois, il y en a qui réagissent tout de suite, d'autres c'est dans le temps, d'autres c'est pas là où on les attend, en fait. Non?
Mais c'est que tu as aussi une histoire dans cet événement-là qui est que Jan-Erik Olsson est arrivé, bang, 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 yiha, le party commence, et a pris des otages. Et que là, pendant un certain temps, il ne savait pas trop quoi faire, puis qu'il était peut-être plus brutal, plus, tu sais, parce que c'était sa première prise d'otage. Il avait appris la leçon théorique en prison de Clark Olofsson. C'est pour ça qu'il a fait venir son mentor. Fait que, tu sais, tu as cette première période-là, et là, tu as Clark Olofsson qui arrive et qui désamorce les choses.
Ouais.
Ça fait que tu as aussi deux ravisseurs différents.
Oui, oui.
Ce que tu entends de Clark Olofsson, c'est « The other one's an idiot », c'est un imbécile, tu sais. Moi, je ne l'ai pas revu, c'est un cave, tu sais. Ouais. Tu sais, puis il y a une règle des bandits aussi dans le banditisme, là, tu sais.
Ouais.
C'est que tu peux t'en prendre à la police, peut-être, ça te donne des bonnies points, mais tu ne touches pas à des femmes, tu ne touches pas à des enfants. Tu sais, il y a une règle qu'on connaît quand on est un bandit, à tel point qu'on ne veut pas se faire arrêter si on a transgressé ces règles-là, parce qu'en prison, on va y goûter. Ça, tu sais?
Mm-hmm.
Puis t'as comme ce Clark Olofsson-là, qui est un genre de gentleman braqueur qui débarque et qui change l'ambiance. Au point où, je pense que c'est Christine...
Enmark,
qui raconte que elle l'a vu arriver comme un sauveur. Lui était capable de désamorcer la situation d'une façon que les policiers étaient incapables, contrairement aux policiers.
Ouais.
Tu sais?
Ouais.
Et donc, sa perception de lui, elle, la jeune femme de 22-23 ans, est fortement teintée de ce sentiment-là que, oh, wow, il y a quelqu'un qui va nous aider à nous en sortir.
Ouais.
Ça fait que ça fait partie des subtilités, des relations qui se tissent dans un contexte où on est enfermé, assis dans une voûte, dans une banque, à essayer de trouver une façon de s'en sortir.
Oui, c'est un one-two punch qui n'est pas à dédaigner, parce que c'est vrai que quand il arrive, ça change le ton. Il place les affaires, il organise les choses. Puis juste pour la petite histoire, Clark Olofsson, c'est des deux... le criminel plus endurci, si on veut, c'est-à-dire que avant il avait fait plusieurs trucs, puis après il va se faire prendre puis impliqué dans toutes sortes de vols de rocambolesques, là. Tandis que l'autre, c'est le seul acte criminel qu'il a fait, il a pas fait tant de prison que ça, puis après ça il est revenu en Suède, je crois, puis il est devenu boulanger ou je sais pas quoi, là. Ça a été l'événement criminel.
Il a essayé de devenir un criminel, ça a foiré, fait que il s'est recyclé.
Tandis que l'autre, quand tu lis son pedigree, là, il est tout le temps impliqué dans toutes sortes d'affaires où il essaie de s'échapper d'une place, un faux nom, puis il se fait prendre.
Puis c'est un fin manipulateur, puis il le dit, puis il n'est même pas gêné.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Bon, on en saurait plus si on aurait compris ce qu'il disait en suédois. Hein?
Oui, c'est ça.
On aurait rattrapé des bouts.
Mais on est chanceux, il parle anglais. Des fois, il... Ouais.
Il y a le moment aussi, un des moments pendant les jours, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, où, pour aller à la salle de bain, les otages doivent marcher un peu et s'éloigner des ravisseurs, et ils ont une opportunité assez claire de s'en aller.
Mm-hmm.
Puis là, c'est vraiment un moment de capiton, comme on dit, hein, mm-hmm. en lacanisme. Parce que là, il y aurait une possibilité. Tu sais, tu fais un pas, tu fais un autre pas, tu fais un autre pas. Là, soit que tu continues tout droit, que tu vas à la salle de bain, soit que tu fais un pas rapide vers la gauche.
Puis t'es parti.
Les policiers sont là, les ravisseurs te voient plus, tu peux t'en aller. Puis là, je pense que c'est Brigitta qui raconte que son raisonnement, elle y pense comme de raison, mais que si elle fait ça, elle met en danger les trois autres.
Uh-huh.
Elle est trahie dans un sens.
Uh-huh.
Fait qu'il y a ça aussi comme élément qu'on, qui n'est pas si jasé dans l'histoire de syndrome de Stockholm-là. C'est aussi le bonding entre les quatre.
Oui. Oui, la solidarité entre les otages.
Ouais, puis là, ben. Puis je sais pas si c'est celle qui a des enfants qui hésitent ou l'autre après. En tout cas, mais la première qui hésite finit par aller à la salle de bain et revenir. Puis la deuxième, elle a le même dilemme et elle va aussi à la salle de bain et elle revient et ainsi de suite. Il y a personne qui s'en va, même s'ils ont une possibilité à ce moment-là.
En fait, c'est ça qui est intéressant après. C'est que tu dis, bon, OK, le syndrome de Stockholm, on exagère peut-être un peu. Je sais pas. Moi, c'est ma réaction de dire spontanément, ça n'a pas de bon sens d'être en captivité pendant 6 jours, enfermé, attaché par le cou, etc., et de trouver encore sympathique tes ravisseurs quand tu sors, plus que la police qui espère être là pour te sauver.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est un peu court comme analyse que d'inventer un syndrome pour ça. Sauf après, quand tu le mets en lien avec tout un paquet d'autres choses, ça existe pour vrai un attachement à un bourreau, un attachement pathologique dans le sens à ton détriment personnel.
Ben oui.
Puis il y a aussi l'effet de la pression du groupe, puis l'effet qui est nourri par la culpabilité, de ta capacité à entrer en lien d'empathie interpersonnelle avec des gens au point de ne pas pouvoir envisager de te sauver toi-même si ça implique que tu les mets en difficulté.
Ouais.
Tu sais, c'est à la base de tous les, tous les groupes, en fait. Les groupes militaires, les groupes d'armée. Ou, tu sais, c'est-à-dire, on fait corps, là, on est réunis dans l'épreuve.
Mm-hmm.
Et si moi, je me sauve, je te trahis. Et là, moi, je suis face à mon dilemme. Est-ce que mon intérêt personnel vaut la culpabilité que je risque d'éprouver de penser que je t'ai trahi compte tenu de ce que je sais que tu es en train de vivre, tu sais?
Ouais. Mais il y a plein de subtilités aussi parce que c'est utilisé assez rapidement, des fois, je trouve, le syndrome de Stockholm, parce que, tu sais, l'idée, par exemple, pour faire image là, d'une personne qui est kidnappé, qui se retrouve là, dans un donjon, qui n'a plus de repères spatio-temporels, strippé de tout son imaginaire, de tout ce qu'elle est, tout ça. Puis que dans ses ravisseurs, il y a une personne qui la traite un peu humainement, puis qui y amène de quoi manger, puis tout ça. L'idée qu'après quelques jours ou quelques heures, il peut y avoir un lien qui se développe pour cette personne-là, qui est comme la personne qui t'amène un peu d'humanité dans cette ordeal, c'est pas si compliqué à comprendre. T'sais, ça fait sens,
oui,
ça fait logique. Là.
Oui.
Mais là, c'est différent ce que je viens de décrire. Puis l'idée de dire que là, t'es dans une banque, t'es dans une voûte, il y a des téléphones, tu parles à tes parents, il y a du monde qui t'appelle. Et là, vraisemblablement, sauf erreur, là, et c'est peut-être pas vrai pour les quatre, mais t'as l'impression qu'à un moment donné, il y a aucun des quatre qui se dit « C'est sûr que je sortirai pas d'ici vivant. Je suis fini.
Oui.
Ces gars-là, ils vont me tirer.
Uh-huh.
Ils sont hors contrôle.
Uh-huh. Uh-huh.
Ça va mal virer, puis je vais mourir.
Uh-huh. »
T'as pas l'impression de cette détresse-là
non, c'est ça.
Qui a été verbalisée pendant
c'est
ou
ça.
Après. Fait que ça change la donne aussi, tu sais, de dire « Bon, ben, dans ce contexte-là, puis je vais pas le banaliser, là, c'est quand même pas sympathique, là, mais de qui ont quand même un contact avec l'extérieur, qu'à un moment donné, il y a certains qui sont allés à dire, ben, il y a un ennemi externe, ou il y a quelqu'un qui ne nous comprend pas à l'externe.
Mm-hmm.
Anyway, tu comprends ce que je veux dire? Il y a différentes
Mais c'est quand même des critères. Regarde, dans les conditions, là, ça fait que là, tu as comment ça se manifeste, c'est le développement d'un sentiment de confiance envers les ravisseurs, des sentiments positifs des ravisseurs envers ceux qu'ils ont pris en otage, puis une hostilité des victimes envers ceux l'extérieur qui viendraient les sauver.
Ouais.
Mais tu as des conditions pour que ça s'installe. C'est d'abord que l'agresseur est capable de conceptualisation idéologique pour justifier son acte. Moi, je trouve ça... Bon, je juste les dire...
Ouais.
Puis qu'il n'y a pas d'antagonisme spontané qui soit, tu sais, t'es un Serbe, puis tu sais, ou... ethniques ou racistes ou de la haine des agresseurs envers les otages. Que je t'ai pas pris en otage comme une hypercachère, admettons. Moi, je suis musulman, toi, t'es juif, tu sais. Puis, les victimes ne doivent pas connaître le syndrome. Si t'en as entendu parler, t'es moins susceptible d'embarquer, en fait. C'est ça, là. C'est comme tous les tests psychométriques, là. Si t'es ça déjà fait, ben là, ça marche moins, tu sais. Mais ça, là, que l'agresseur est capable d'une conceptualisation idéologique, tu sais, mais c'est, ça nous ramène à 1973, tu sais. Qu'est-ce qui se passe partout dans le monde en 1973? Il y a comme la gauche est en train, tu sais, de gonfler partout dans le monde, tu sais. Tu sais, t'as comme... la révolution, c'est cool. Être anticapitaliste, c'est cool. La libéralisation des mœurs. Les filles qui brûlent leur soutien-gorge. Abat le patriarcat. Abat l'Église. Abat, tu sais, la domination. Abat le colonialisme, etc. Ça fait que si tu peux conceptualiser ça puis inscrire ton geste dans une logique de très gauche, à Stockholm, je pense que c'est ça qui s'est passé.
Bien, curieusement, on ne le sait pas. C'est quand même particulier, parce que c'est vrai que, ben, je ne sais pas si toi tu le sais, moi je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'il leur a raconté, Jan-Erik Olsson, quand il les a kidnappés? Parce que ses demandes, c'était pas... je ne sais pas que ça aurait pu être des demandes, mais c'était pas des trucs extravagants ou violents. Ils voulaient de l'argent pour s'en aller.
Oui.
Puis peut-être qu'il leur a dit... donc. Je prends ce que tu dis. Peut-être qu'il leur a dit, écoutez, s'il y a une place où il y en a de l'argent, c'est ici.
C'est dans une banque.
Ça ne leur change rien pour
c'est
eux.
C'est juste que Clark Olsson est arrivé après, puis il a rationalisé toute la patente, puis il leur a expliqué c'était quoi la police, puis comment il pensait la police.
Mais
c'est-tu
ton idée
que... un vrai bandit, il connaît ça, la police, puis qu'ici, c'est une banque, puis...
Mais est-ce qu'on le sait s'il leur a présenté un discours idéologique d'emblée?
Oui, c'est moi qui l'injecte. Non, j'avoue, c'est moi
qui... mais c'est très probable. Ce qui est particulier, c'est qu'on ne le sache pas, et c'est possible qu'il l'ait fait, mais qu'on n'a pas voulu le dire pour pas romantiser la patente.
Ça se peut, mais on l'a romantisé pareil.
Oui, mais dans le sens où on pensait que le romantisme devait aller.
Oui, c'est ça.
Dans le sens qu'on ne peut pas encourager des vols de banque puis du monde qui trouve ça bien.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
On ne va pas mettre de l'avant que dans le fond, son discours... Parce que je ne sais pas c'était quoi son discours, mais il y en avait fort probablement un.
C'est juste 2 ans après que le FLQ a fait tomber ici, a fait exploser des bombes ici, à là, à gauche, puis qu'ils ont tué la porte, puis tout ça, puis que finalement, ils sont allés... Il y en a certains qui ont obtenu de pouvoir s'exiler à Cuba.
Ouais, ouais.
Puis Cuba... tu sais, Cuba, c'était la... Puis Kadhafi, tu sais, je veux dire, c'est quand même une époque.
Ouais, oui, tout à fait. Là, il y a un tabou dans l'histoire aussi dont on n'a pas encore parlé. Hein.
Oui, qui est un tabou...
Bon, je te laisse parler puisque t'es meilleur que moi pour en parler.
Ben non, ça me met mal à l'aise puisque c'est tabou. tu comprends mon malaise. Il y a une histoire d'amour ou une amourette. C'est entre Clark Olofsson et Kristen Emart. Voyons. Ah, je vais leur dire... Christine Henmark, c'est elle, mais c'est pas elle qui s'est fait étrangler.
Je pense pas.
Une histoire d'amour, une amourette, enfin, elle voulait le revoir, puis lui trouvait que c'était a very sweet girl, puis ils ont pris soin l'un de l'autre, etc. Et il y a eu comme des attouchements. C'est ça?
Ben, moi, ce que je comprends, c'est qu'une fois que ça a été terminé, selon les otages, ils ont paradé, comme on dit tantôt, là, les kidnappeurs
les
pour se faire un peu de capital politique, tu sais, ça se peut.
C'est les goudrons et les plumes.
Ouais.
Après 6 jours, puis, tu sais, juste avant une élection, tu sais, je veux dire.
Exact. Ils ont comme de raison analysé, tu sais, la police est arrivée, puis ils ont analysé tous les lieux, puis ils ont trouvé du sperme par terre, sur le plancher, sur le tapis. Fait que là, tout de suite... C'est pour ça que je ne sais pas comment ça, le psychiatre était pas... Mais peut-être que le psychiatre avait fait son travail, puis c'était un travail relié aux négociations, puis il n'était plus là. Mais là, ils sont allés revoir les trois femmes en disant, « Mais donc, est-ce que... » Parce qu'il y avait des accusations qui allaient être faites, ça allait aller en cours. Fait que d'autres, ils voulaient rajouter agression sexuelle, viol, etc., etc. Et c'est un peu le tabou de l'histoire, parce qu'on sait donc qu'il est arrivé quelque chose. Dans certains récits, on dit que c'était entre qui et qui, donc ça serait entre Clark, Olofsson et Christine. Dans d'autres récits, on dit, ben là, par respect pour les gens impliqués, on ne dira pas c'est qui. Dans d'autres récits, on dit que c'est Clark qui s'impose et qui force, c'est une agression en bonne et due forme, là. Dans un autre récit, c'est différent, mais c'est très, très tabou, là. Il y a peu de gens qu'il raconte, même 37 ans plus tard, en disant « Mais voici ce qui s'est passé. » Ou, c'est comme quelque chose de... C'est le non-dit de l'histoire. C'était « Qu'est-ce qui s'est passé? » Comment ça s'est déployé? Et qu'il y ait un non-dit ou que des gens aient une certaine pudeur à aborder quelque chose dont on pourrait dire que c'est l'ordre du privé, tu sais, je peux comprendre. Ce qui est quand même un autre registre, c'est quand celle qui est impliquée en parle et le raconte, mais qu'on ne veut pas l'entendre parce qu'on dit que dans le fond, ça ne nous regarde pas. C'est là que c'est vraiment tabou.
C'est ça, oui.
Ben, et parce que elle, un de ses récits, c'est que. Mais ben, elle explique. En fait, puis, je veux dire, est-ce qu'on peut lui reprocher d'expliquer son processus de pensée, de son rapprochement avec le ravisseur, de comment ça s'est passé, de qu'est-ce qu'elle pensait? Je veux dire, c'est quand même un drôle de tabou qu'on puisse pas écouter ça. Si on en parle, elle explique.
Mais ça nous ramène encore à... C'est parce qu'elle en parle, elle en explique. Elle l'explique maintenant, ou comme c'est contemporain à nous, puis c'est à notre époque à nous. Ils n'en ont jamais parlé vraiment. C'est comme si c'était recouvert de... En fait, non, mais qu'elle tente de s'expliquer à une époque où on est vraiment prompt à classer les rapports sexuels entre les gens dans une sorte de hiérarchie ou une cartographie de ce qui est acceptable, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est de l'agression, ça donne une autre couleur au récit.
Oui, tout à
Puis
fait.
tu dis, ben, elle raconte son expérience à elle, et ce qu'elle rencontre, c'est des gens qui craignent de diffuser des choses qui seraient entendues par des gens que ça blesserait. Tu sais, c'est un peu le truc qu'on rencontre à tous les détours, dans le fond. Tu sais, on peut pas parler autant de choses que peut-être on a déjà pu parler parce qu'on a un auditoire imaginaire ou peut-être réel. On reçoit des courriers, je sais pas moi, ils reçoivent des courriers, des plaintes ou je sais pas, je suis pas là, mais il y a comme une diminution de la liberté de chacun, même des personnes directement concernées, à dire leur expérience, si c'est pas dans une certaine direction, au nom de ceux qui pourraient être affectés. C'est-à-dire, c'était la même chose quand on parlait de Grégory, puis c'était la même chose quand on parlait de Jordan Peterson, c'est-à-dire l'auditeur qu'on imagine et qui oriente ce qu'on accepte ou pas de diffuser ou comment on pose nos questions ou tu
Oui,
sais.
aussi, pour être très contemporain, c'est le politicien qui dit dorénavant, les parcs vont fermer à telle heure pour vous protéger de vous-même.
Oui, c'est ça.
Parce que
Parce que vous savez pas ce que vous
c'est ça,
faites.
moi, dans ma cour, je peux boire comme je veux, mais vous, moi, je pense que
Il faut qu'on vous le
je sais
dise.
mieux que vous. Fait que, il y a ça. Hein. Mais donc, sans, ben, en fait, on peut le dire, on en parle. Parce qu'en fait, l'intérêt de ça aussi, c'est peut-être qu'on peut capter un petit bout de vérité par cet événement-là, de comment ça s'est déployé la relation entre certains des otages et des kidnappeurs. Elle, ce qu'elle raconte, c'est qu'à un moment donné, t'sais, parce qu'il faut se rappeler, il passe 6 jours dans, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être 600 pieds carrés, c'est pas très grand, ils sont dans une voûte, là, ils sont collés, maintenant ils n'ont plus de lumière, ils ont faim. Fait, à un moment donné, il y a un rapprochement entre Clark Olofsson puis Christine, and Mark, où, de ce qu'elle raconte, lui il est très poli, donc il lui demande s'il peut la toucher. Disant qu'il est en prison, ça fait longtemps qu'il n'a pas touché une femme, tout ça. Ce à quoi elle consent en se disant ben, si on crée un rapprochement, ça crée des liens, puis ça rend ça plus difficile après la violence. Ou... Fait, jusqu'à quel point elle a peur, c'est dur à dire, elle le dit pas vraiment. Puis dans le New Yorker, c'est rapporté d'une façon très lyrique où la façon dont ils décrivent l'échange, personne ne se parle comme ça dans une situation. Mm-hmm. T'as l'impression qu'ils citent du Shakespeare en, en disant...
En suédois.
Oui, voilà. Mais tu sais, c'est comme « Ma princesse, me permets-tu de déposer ma main sur ta cuisse étant donné mon passé en prison? » Tu sais, personne ne parle de même. Mais bon, fait qu'elle accepte, il y a des rapprochements, puis finalement, elle se rend bien compte que lui ne fera jamais rien parce qu'il y a un honneur, comme tu disais tantôt, tout ça, tu sais. Fait qu'il veut aller plus loin, elle dit non, il respecte ça, il n'y a pas d'enjeu autour de ça. Puis elle lui dirait... Mais tu peux faire ce que tu as à faire. Si tu veux te soulager, il serait retourné, il serait masturbé, puis ça serait fini, là. C'est l'histoire officielle, d'où le sperme sur le tapis qu'ils ont trouvé, tout ça. Mais, tu sais, je sais pas, c'est cru, mais je sais pas non plus une affaire impensable ou tabou, ce que je viens de décrire. Mm-hmm. C'est rapporté dans le New Yorker en 1974. Mm-hmm. Dans tous les autres récits, écoute, personne parle de ça. Ou ceux, parfois, quand ils en parlent, ils vont... Ben, ils vont dire que c'est une autre version où elle a été obligée de faire certains gestes parce qu'elle n'avait pas le choix.
Oui, c'est parce qu'ils sont méchants.
Oui, et c'était c'est de l'agression.
C'est ça.
Et les gens sont très rapides à dire...
Oui, il faut mettre les méchants du côté des méchants, les bons du côté des bons. Ouais. C'est important.
Oui, c'est ça, exact. Mm. Oui, il faut enlever toute ambiguïté là-dessus.
C'est ça.
Et c'est sûr que quand on fait ça, donc, nécessairement le méchant, c'est lui, mais on peut comprendre. Mais donc, si elle le voit pas comme méchant, c'est qu'elle est dans son syndrome.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quitte à ce qu'on efface des bouts d'histoire au complet.
Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de touchant quand même quand, tu sais, 35 ans plus tard, elle a l'élan, Kristen Hellmark, de vouloir raconter l'histoire, de vouloir se dégager... de la culpabilité, de l'idée de comment ça, elle a réagi comme ça, parce qu'elle dit, il doit avoir quelque chose de qui tourne pas rond avec moi, parce que je réagis pas de la façon dont on me dit que j'aurais dû réagir.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous en savez? Ouais, avez-vous... Oui. C'est un peu ça, son cri. Hein?
Oui.
Fait que c'est très légitime. Fait que c'est dur de... Il me semble de pas vouloir écouter ce témoignage-là en se disant, ben non, on a déjà le diagnostic.
Ben, c'est qu'en fait, tu aurais plus le goût d'écouter le témoignage, pour vrai, entre toi et moi, que d'écouter le psychiatre qui pense de loin, qui comprend comment ça marche, parce que c'est comme ça, il y a le pédigré, tu sais.
Ou de lire la version méthodique, linéaire, obsessionnelle, pas à pas, de tout ce qui s'est passé.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a... Puis je comprends qu'à un moment donné, tu sais, quand tu fais un récit d'une histoire pour que l'histoire ait un sens, puis qu'elle prenne forme, puis qu'elle soit recevable pour beaucoup de monde, ben, il faut y aller tranquillement, pas à pas, en racontant ce qui s'est passé. Mais je reviens à tout mon topo du début. À un moment donné, tu viens de tout aplatir, puis tu comprends plus la caractéristique de cette histoire-là. Tu sais, puis c'est une histoire qui, par définition, symbolise une éruption dans une vie. Puis il y a des moments dans l'histoire qui sont des mini-éruptions. Il y a de quoi qui change. Clark arrive, ça change tout.
Mm-hmm.
Le jeune de 16 ans débarque. Ça a tout bousculé l'affaire.
Mm-hmm.
Il appelle
la police met du gaz lacrymogène.
Ouais, bouche les trous.
Oui.
La mère appelle. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis là, toi?
Uh-huh.
La mère appelle une des personnes en otage. L'a entendu à la radio qui engueulait le premier ministre ou le président. Uh-huh. Puis elle dit, on parle pas comme ça. Respect. Tu sais, il y a des choses qu'on... Ben, c'est ça qu'on pourrait dire. Ça vaut la peine de... C'est l'humanité dans l'histoire, en fait. Quelques otages autour de lui. Ben, quelques otages. Quelques personnes qui deviennent des otages. C'est pas des otages.
C'est pas comme des Pokémon.
Oui, c'est ça. Il y avait avait beaucoup de gens, mais peu d'otages, jusqu'à temps qu'ils trouvent un otage. Il a dit, ben, c'est un rôle qui lui était destiné.
Et réciproquement. OK. Oh, pardon.
C'est dit dans l'après-coup, je pourrais toujours justifier. C'est dans un otage qui se tient dans une banque qui court après un peu.
Ouais, j'avoue.
C'est louche. Ah, non, mais...
ah, c'est trop. OK. OK,
je peux commencer? Je reprends.
Vas-y, continue.
Donc, c'est ça.